France Musique.
Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Jean-Guyenne Queyras. Je suis né le 11 mars 1967 à Montréal. Je suis violoncelliste.
Jean-Guyenne Queyras, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir. Nous sommes chez une de vos tantes, je crois. Je vois là, juste au-dessus de la cuisine, un tableau qui dit Queyras, les sœurs Queyras.
Effectivement, donc il y a une. J'ai la chance, par mon père d'adoption d'ailleurs, peut-être que je ne sais pas si on sera amené à aller dans le détail de mon enfance et de ma vie de famille, mais donc par ce père d'adoption que je considère comme mon père et qui, avec qui j'ai un lien très fort, et bien dans, il y a une famille extrêmement soudée. Et cette grande famille Queyras, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc là, ce que vous voyez, c'est effectivement une sorte de tableau, parce qu'il y a eu des mariages avec une autre famille, les Vinclair d'une autre, etc. Et il y a une espèce de circuit, de cercle créé qui fait que les cousins se rejoignent par différents biais. Voilà. Donc c'est assez marrant. Mais ce qui est important, en fait, c'est que justement ce lieu où on se rencontre ici, cet appartement, et même cet immeuble symbolise la manière dont cette famille est incroyablement soudée, généreuse, toujours disponible. Donc moi, quand je viens à Paris, je sais que je me sens à la maison, chez ma très chère tante. Et en fait, au départ, on s'était donné rendez-vous, Judith, un étage plus haut, n'est-ce pas ? C'était chez ma tante Suzanne. Et ben finalement, on s'est reporté chez ma tante Agnès, qui habite un étage en dessous. Et en fait, l'appartement, pour la petite histoire, a été construit par mon arrière-grand-père. Non, arrière-arrière-grand-père. Donc, il y a très très longtemps. Et puis, finalement, il y a encore beaucoup de membres de la famille qui sont dans cet immeuble. Et donc, c'est comme une grande communauté ici. Ça fait presque kibbutz, on pourrait dire. Non, mais en tout cas, ce qui est formidable, ce qui est magnifique, c'est cet esprit de famille. Ce sont des gens d'une générosité extraordinaire. Et ça s'est retransmis de génération en génération. Et maintenant, ma génération, on se retrouve très, très souvent avec ses cousins innombrables pour ce qu'on appelle les cousinades. Donc, c'est ni Noël, c'est pas un anniversaire, c'est pas un mariage, etc. C'est l'envie de se retrouver une fois par an, chaque année, dans un lieu différent. Et il y a toujours entre 40 et 60 personnes avec les enfants, voilà. Et c'est beau de voir, et je vois ça maintenant avec mes enfants, c'est que cette envie de vivre cette générosité partagée, ce bonheur d'être ensemble, en fait, eh ben, que ça se transmet comme ça, très naturellement, de génération en génération. Et bon, je m'excuse, là j'extrapole un petit peu, mais ça me fait penser, tout ça me fait penser à un TED Talk. Vous savez, ces espèces de conférences sur Internet où les plus grands spécialistes de différents domaines s'expriment, et on peut suivre ça comme si on était à l'université, en fait. Et j'ai vu un TED Talk passionnant d'un chercheur qui exposait, en fait, une grande recherche qui a été faite par Harvard pour voir est-ce qu'on peut trouver une corrélation entre le bonheur et quelque chose d'autre, la richesse, la réussite sociale, etc., etc. Et ce que je trouvais passionnant, c'est qu'il a dit d'entrée de jeu, clairement, on peut établir maintenant que non, il n'y a pas de corrélation entre le bonheur et la richesse. Non, il n'y a pas de corrélation entre la réussite professionnelle et le bonheur. Et par contre, il y a une seule chose qu'ils ont pu établir de manière très claire, c'est qu'il y a une corrélation très claire entre le bonheur et une fin de vie surtout en bonne santé et paisible, et le fait d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire un entourage d'amis, un cercle d'amis présent, et d'entretenir ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que vraiment ce qui peut participer à notre bonheur, à nous tous, voilà, c'est de vraiment d'entretenir les relations à nos proches. Et donc, c'est vrai que le fait de parler de cette famille, je me dis, j'ai une chance folle de partir avec cette base.
Et cette base, Jean-Guyenne Queyras, elle a commencé aussi au Canada. Vous êtes né à Montréal en 1967. Qu'est-ce que vos parents, du coup, puisque vous y êtes né, faisaient là-bas? Comment est-ce que tout a commencé là-bas?
Mes parents sont tous les deux, leur histoire dans leur enfance est un peu similaire, c'est-à-dire deux familles françaises qui émigrent vers le Canada directement à la fin de la guerre, pour des raisons économiques. Hein, c'était la période où l'Europe était sur les genoux et où il y avait beaucoup d'opportunités sur le nouveau continent et où le Québec cherchait à faire venir beaucoup de francophones pour contrebalancer un petit peu ce qu'ils ressentaient un petit peu comme une prédominance, voilà, de la communauté anglophone. Et ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont mariés. Il y a eu encore des allers-retours vers la France, etc. Mais donc, à l'époque, ils étaient Canadiens, quoi. Ils étaient devenus Canadiens, ils étaient la première génération, voilà. Et donc, je suis né à Montréal et j'y étais les premières 5 années de ma vie. Et quand j'avais 5 ans, la famille s'est recomposée, on dirait aujourd'hui. Et ensuite, de cette recomposition, donc de cette séparation de mes parents et de cette rencontre avec mon père adoptif dont je parlais tout à l'heure, est né un 5e enfant, Joachim, mon petit frère, voilà. Donc j'ai été pendant longtemps le petit dernier, mais ensuite j'ai été rattrapé. Et donc quand j'avais 5 ans, on est parti d'abord en Algérie pour 3 ans parce que Jean-François, donc mon père adoptif, a eu un travail là-bas qui leur a permis de préparer ensuite le terrain pour là où ils voulaient aller. Donc mes parents, Jean-François et Marie-France, leur but, ce qu'ils cherchaient, c'était la Provence où tout avait commencé. Et pendant cette période de 3 ans, ils ont acheté une ruine en Provence, à une époque où c'était encore abordable. Et ils l'ont retapé avec des copains. Et une fois que c'était habitable, ben voilà, on est allé en Provence, quand j'avais 8 ans.
Donc, ce Fort Calquier, c'est né comme ça de votre père d'adoption.
Voilà, le Fort Calquier, c'est né du fait que Jean-François, mon père d'adoption, et Marie-France, ma mère, s'étaient rencontrés là-bas dans la région, dans la petite ville de Jouques, et qu'ils voulaient toujours retourner dans cette région-là. Et ils ont trouvé cette maison à Fort Calquier, où vit toujours mon père maintenant. Ma mère est décédée il y a quelques années. Et donc voilà, c'est là qu'est la maison familiale, c'est là qu'on fait effectivement notre festival de musique de chambre qui a commencé il y a maintenant bientôt une trentaine d'années. On va fêter les 30 ans en 2018, donc vraiment ça nous rajeunit pas, mais mon frère Pierre-Olivier, qui est violoniste, et moi, on était étudiants au Conservatoire de Lyon, et puis on a eu l'idée de commencer ce festival aussi sous l'impulsion de nos parents, mais je ne sais pas si on en parlera peut-être plus tard dans l'émission.
Regardez comme souvenir, Jean-Guillaume Garas, de l'Algérie, du Canada. Vous avez, pour l'instant, la musique n'est pas encore là, parce que cette découverte du violoncelle, c'est plus tard, ces premières années que vous allez passer à l'étranger. Vous en gardez des souvenirs, des couleurs, des sensations?
Oui, il est très juste de parler de sensations. Les sons sont très importants, bon, peut-être tout simplement parce que je suis musicien, mais quand je repense notamment au Québec et au Canada, j'ai réalisé surtout quand je suis retourné pour la première fois après une longue période d'absence. Donc en fait, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quitté le Canada, j'avais 5 ans, et je n'y suis retourné que à l'âge de 20 ans. Ensuite, quand j'étais étudiant à New York, et j'avais pas du tout de fric à l'époque, j'étais vraiment un étudiant fauché, et donc je pouvais même pas rentrer sur l'Europe pour Noël. Donc je suis allé chez mes tantes et cousins pour passer Noël, et c'était mon premier contact de nouveau avec justement ce pays. Et là, j'ai réalisé à quel point, effectivement, d'un point de vue cognitif, il se passe énormément de choses dans nos toutes premières années. Et évidemment, maintenant, même tout le monde vous dira que, de manière prénatale, il se passe énormément de choses. Hein. C'est même avant de naître qu'il se passe énormément de choses. Mais du Québec, c'est surtout ça. C'est quand j'entends des Québécois parler avec ce magnifique accent québécois que j'adore, eh bien, il y a quelque chose qui parle au plus profond de mon être. J'ai été là-bas, je vous le disais, donc j'y suis retourné à 20 ans pour Noël. Donc ça veut dire quoi, Noël? Ça veut dire moins 20 degrés dehors, la neige partout, ce froid sec et cette température de moins 20 qui vous mord la peau comme ça. Eh ben, il y avait un retour à la matrice, un retour à la maison. En ce qui concerne l'Algérie, c'est un petit peu différent. Là, évidemment, entre 5 et 8 ans, on commence à être déjà beaucoup plus conscient. Il y a la langue, il y a la vie vraiment au quotidien qu'on perçoit de manière beaucoup plus consciente. Donc j'ai des souvenirs très, très concrets de l'école, de cette communauté française, parce que c'est vrai qu'on allait dans une école française, évidemment.
Vous étiez à Alger?
Non, nous étions d'abord à Mostaganem pendant un an, et ensuite à Tizi Ouzou en Kabylie. Et on a fait évidemment des excursions dans le désert, rencontrer les nomades, etc. Donc il y a eu un contact avec le climat, il y a aussi ce désert, ce sable. Et puis ces gens extrêmement accueillants, bien que vivant dans des conditions extrêmement modestes. Ça, c'est quelque chose que, bon, j'ai plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte à quel point c'était très souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent les peuples qui vivent dans les conditions les plus modestes qui sont les plus accueillants. Et je pense que, je fais une petite parenthèse, on le voit aujourd'hui aussi avec le Liban, pays qui est loin d'être un pays de cocagne, enfin en tout cas de nos jours, et qui accueille des réfugiés syriens par millions, et voilà. Et nous, on se bataille pour savoir si on peut en accueillir 150. Donc voilà, en ce qui concerne l'Algérie, je pense qu'il y a aussi, je me souviens aussi, d'ailleurs, et ça va jouer un rôle plus tard dans mes activités musicales, je me souviens vraiment d'entendre le chant de cette langue, de la langue arabe, que je n'ai pas apprise, mais que j'entendais, évidemment, inévitablement, hein, dans la rue, partout dans le toit, la musique elle-même, qu'on entendait parfois dans la rue, etc. Le chant aussi de l'appel à la prière, qui voilà. Donc il y a toutes ces résonances et qui font partie d'une culture, d'une vie, qui certainement sont restées dans mes sens et dans ma conscience et qui font partie de moi.
Parler de tous ces chants, de l'appel à la prière, Jean-Guillaume Garas. Est-ce que votre famille, justement, a été religieuse, elle?
Non, en fait, on a été éduqués plutôt de manière post-68arde, un petit peu. C'est-à-dire que je crois que la manière dont mes parents sont allés s'installer en Provence au début des années 70, c'était quand même aussi un peu un rêve qui ressemble, en tout cas, qui est apparenté au rêve hippie, hein, c'est-à-dire le retour vers une vie simple, dans un entourage loin d'une une civilisation peut-être un peu trop embarquée dans ces illusions consuméristes. Par contre, tout cela n'est pas contradictoire en fait avec le fait, et c'est maintenant quelque chose dont je peux parler parce que mon père a écrit un livre qui s'appelle Cantate. Donc mon père Jean-François Queyras, vous pouvez le trouver ce livre. Il a lui-même, avant de devenir notre père adoptif et donc de prendre en charge cette famille de 4 enfants, il a été prêtre et prêtre catholique. Donc c'est vrai que la religion, quelque part, forcément du coup, a eu une présence dans la famille. Mais il a fait ce pas énorme, justement, de sortir de l'Église, puisqu'il était obligé, évidemment, puisqu'il allait épouser une femme divorcée et adopter 4 enfants. Et il a été obligé d'abandonner l'Église, oui, en tout cas, forcément, je pense qu'il y a quelque part, de manière indirecte, la réflexion sur la religion et sur la croyance, surtout. Et sur, je crois que même si un jour vous êtes obligé, comme ça a été le cas de mon père, d'abandonner les ordres, je pense que toute la réflexion que vous avez faite pendant des années sur le besoin de croire en quelque chose de plus grand, croire en quelque chose qui nous dépasse et qui peut, on l'espère, nous emmener vers quelque chose de positif, de bien, je crois que forcément c'est pas quelque chose qui tout d'un coup disparaît. Donc je pense que indirectement c'était présent et finalement plus tard aussi ça sera extrêmement présent dans ma découverte de la musique, puisque je dirais que la première manière dont elle se fera, ce sera par la musique qu'écoutaient mes parents, et ils écoutaient énormément de musique, passionnés de musique, notamment les cantates de Bach. Je me souviens que ça jouait un rôle très fort. Et là, on a de la musique religieuse directement liée à la foi. Et Bach, il a cette qualité extraordinaire qui fait que même ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils écoutent Bach, mais ils sont obligés d'y croire un petit peu, parce que c'est ce que disait, il y avait Tortelier qui avait dit cette phrase très jolie, il disait « Bach est la preuve de l'existence de Dieu », et il laissait passer un petit temps, il disait « auquel je ne crois pas d'ailleurs ».
Cette discothèque de vos parents, elle était déjà là en Algérie, j'imagine. Ou ces souvenirs-là de Bach dans la maison, c'est aussi lié, Jean-Guyen Queyras, à ce lieu, à Fort Calquier.
Alors la musique a toujours été présente dans la famille, ça c'est clair. les cantates, etc. Ça, je l'associe vraiment à Fort-Calquier. Je me souviens qu'une fois qu'on s'est installé, puis c'était l'époque, on s'est installé à Fort-Calquier, donc en 75, oui, c'est ça. Et c'était l'époque où Léonard et Arnoncourt sortaient régulièrement un nouveau volume pour faire leur intégrale des cantates de Bach. Là, pour le coup, j'ai envie de réutiliser le mot religieusement. Mes parents achetaient chacun de ces albums dès qu'ils sortaient et on les écoutait énormément. Le paradoxe, c'est que dans les années algériennes, il y a un disque qui m'a beaucoup plus frappé que d'autres. C'était un disque avec la drum suite de Art Blakey and the Jazz Messengers. Puisque c'est Art Blakey, donc c'est la percussion avant tout, hein, et c'est le rythme, la percussion. C'est quelque chose qui a une force minérale quasiment, hein, c'est quelque chose qui touche la terre, qui est extrêmement terrien comme ça. Et le morceau commence et termine avec un espèce de chant d'incantation africain que je trouvais très fort. Cette voix me fascinait. J'avais donc 5-6 ans, hein. Et c'est un disque que j'écoutais en boucle. Et je me souviens, je peux vous dire aussi, de la couverture de ce disque, qui était un masque africain sur fond rouge, qui me frappait aussi par son expressivité. Donc voilà. Donc c'était né de l'époque. Alors c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, finalement, on parle des racines, d'où on vient, etc., etc. Et là, on a un musicien, Art Blakey, un musicien américain, qui va chercher, qui va puiser, comme c'était beaucoup le cas dans ces années-là, les années 60, 70, qui va chercher en Afrique ses origines, la source, bien sûr, d'un point de vue musical et puis d'un point de vue personnel.
Une photo là, de vous. Est-ce que vous pouvez la décrire aux auditeurs, cette photo? Vous avez un casque?
Ah ben oui, c'est donc. Oui, effectivement. C'est moi écoutant Art Blakey et les Drum Messengers. Et on m'avait mis un casque sur la tête parce qu'au départ, je l'écoutais comme ça avec les baffles. Et puis, comme j'ai un côté un petit peu obsessionnel, qui ne m'a sans doute pas quitté, je l'écoutais vraiment en boucle, mais vraiment. C'est-à-dire, on ne parle pas du nombre de fois qu'on compte sur une doigt d'une main, mais vraiment de dizaines de fois. Et bien sûr, le reste de la maisonnée devenait fou. Et donc, au bout d'un moment, j'étais invité à l'écouter avec un casque sur la tête.
Un extrait de la drum suite d'Art Blakey et les Jazz Messengers que Jean-Guyenne Queyras écoutait en boucle, enfant. Grand entretien avec Jean-Guyenne Queyras, chapitre 1, c'est terminé. La suite demain à 13h. Merci à Céline Tranouvel et Mathieu Benoît pour la préparation, Gilles Blanchard à la réalisation, Yves Lehors à la technique et Éric Boisset au mixage. Toutes les informations podcast et réécoute sur francemusique.fr. À demain.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.